propriété, ma réponse est il faut étendre massivement la propriété d'usage et supprimer la propriété lucrative. J'introduis une distinction donc assez classique au demeurant entre propriété d'usage qui est très intuitivement partagée. Il faut étendre massivement la propriété, et donc je n'intitulerai pas une conférence sur la propriété avec l'idée qu'il faille là en fixer les limites. Je pense qu'il faut au contraire étendre massivement la propriété sous forme de propriété d'usage, mais qu'en revanche, les limites sur la propriété lucrative, ça ne suffit pas, ça. Il faut la supprimer, y compris dans son usage populaire. J'y reviendrai. Propriété d'usage, propriété lucrative, donc. Et oui, et qu'est-ce que ça a à voir avec le salaire, puisque ce que je vais dire est exposé dans l'enjeu du salaire, qui est sorti la semaine dernière, et cela a à voir parce que l'institution massivement pratiquée et avec succès, qui peut se substituer à la propriété lucrative et fonder une extension de la propriété d'usage, c'est la cotisation sociale. Et la cotisation sociale, c'est un élément déterminant du salaire, puisqu'aujourd'hui, 45% du salaire est socialisé sous forme de cotisation sociale. Donc, c'est du côté du salaire qu'il faut chercher la réponse à la question de la propriété. Propriété d'usage, propriété lucrative. La distinction est au cœur de mon propos. La propriété d'usage, c'est un patrimoine que l'on consomme. Un outil de production pour un travailleur indépendant qui a son patrimoine et qui l'utilise, lui, il n'a pas de salarié, il utilise son outil de travail, c'est de la propriété d'usage. Propriété d'usage, le fait d'être propriétaire de son logement et de l'habiter. Propriété d'usage, le fait d'être propriétaire d'une voiture et de l'utiliser pour prendre des grands biens représentatifs de la propriété d'usage. L'outil de travail, le logement, la voiture. Cette propriété d'usage s'oppose à la propriété lucrative et le faible espace de la propriété d'usage, qu'on pense au fait que nous ne sommes pas propriétaires d'usage des entreprises où nous travaillons, par exemple, et que si nous sommes locataires, nous devons rendre le logement dans l'état où nous l'avons trouvé. Enfin, donc la propriété d'usage, elle est absolument nulle. La propriété d'usage trouve ses limites dans la propriété lucrative et ne pourra trouver un espace plus large que si l'on supprime la propriété lucrative. Alors qu'est-ce que c'est que la propriété lucrative? C'est le contraire de la propriété d'usage. C'est un patrimoine que l'on ne consomme pas pour en tirer un revenu. La propriété de moyens de production que l'on n'active pas soi-même. Ce sont des salariés qui le font, et du coup, on va tirer un revenu de cette propriété que l'on n'utilise pas soi-même. C'est une propriété lucrative, c'est pas une propriété d'usage. Le propriétaire de l'entreprise n'utilise pas les outils qu'utilisent les salariés. C'est une propriété lucrative, puisqu'il va tirer un revenu de ce patrimoine. Autre exemple, une maison ou un appartement que l'on n'habite pas et que l'on loue. C'est de la propriété lucrative. On ne consomme pas le patrimoine dont on est propriétaire, on en tire un revenu. La forme dominante aujourd'hui de la propriété lucrative, ce sont les portefeuilles d'actions, d'obligations, de titres divers. Là encore, ces portefeuilles expriment une propriété collective, par exemple d'une entreprise dont on a des parts à travers l'action, mais cette entreprise, on n'y travaille pas, on n'y a pas de, on n'y met pas en œuvre les outils de production, on tire un revenu du patrimoine. La propriété lucrative interdit la propriété d'usage. Elle l'interdit en matière de travail. Nous ne sommes pas propriétaires d'usage de l'outil de travail parce qu'il y a une propriété lucrative. Elle interdit massivement aujourd'hui la propriété du logement. C'est le report des portefeuilles financiers sur les biens de première nécessité, l'alimentation aussi d'ailleurs, le logement, etc., qui fait que nous avons aujourd'hui une quasi-impossibilité de propriété d'usage en matière de logement, ou alors à des prix qui ne sont pas accessibles. Je rappelle des chiffres récents, le décile des ménages aux plus faibles revenus consacre 54% de ses ressources à se loger. Le décile des ménages aux plus forts revenus y consacre 24%, ce qui est considérable aussi d'ailleurs. Vous voyez que la propriété lucrative, en ayant augmenté de façon totalement indécente au cours des dernières années, par déplacement des portefeuilles, par défiscalisation, etc., le prix des logements rend pratiquement impossible la propriété d'usage. Étendre la propriété d'usage suppose de supprimer la propriété lucrative. Et c'est tout à fait possible parce que c'est ce que nous faisons déjà massivement et avec grand succès depuis 60 ans dans les pays capitalistes les plus développés. Les pays capitalistes les plus développés ont vu la suppression de la propriété lucrative dans des domaines qui relevaient jusque-là de la dite propriété. Deux, pour l'essentiel, la pension de vieillesse et la santé. Et ça n'est pas rien puisque pension de vieillesse et santé représentent à peu près le quart du PIB. Le quart de ce que nous produisons chaque année. Est affecté à la santé et aux pensions sans passer par la propriété lucrative, alors que c'était le cas avant les assurances sociales et la sécurité sociale. C'est donc la cotisation sociale, c'est le cœur de mon propos, qui remplace la propriété lucrative. De manière extrêmement efficace, comparons le système de santé des USA qui confie à la propriété lucrative le financement de la santé à travers les compagnies d'assurance et qui a des résultats pas supérieurs au système de santé européen alors même que cette propriété lucrative ponctionne 15% du PIB pour assurer le financement de la santé, alors que la cotisation, chez nous, assure un service de santé équivalent et plus égalitaire, d'ailleurs, pour 10% en moyenne du PIB. Lorsque l'on se débarrasse de la propriété lucrative, on voit tous les bénéfices que l'on en tire Et sur un champ qui n'est pas minoritaire, qui n'est pas un petit truc, hein, c'est 200 milliards, c'est 10% du PIB, c'est tout à fait considérable. Et ça fonctionne fort bien depuis 60 ans. Donc nous avons l'expérience de la fécondité qu'il y a à supprimer la propriété lucrative pour assurer de la production de biens et de services. Deuxième exemple, la pension. La pension, là encore, la seule façon d'assumer la pension en dehors de la solidarité familiale avant l'invention de la cotisation, c'était le patrimoine. Patrimoine du commerçant qui vendait son fonds de commerce pour essayer ensuite de vivre de la pension retirée de ce patrimoine, l'épargne. Bref, nous avons inventé, là encore, à partir du milieu du XXe siècle à peu près, hein, un financement de la pension, non plus par l'épargne, ce qui était le cas jusqu'aux années 40, hein, mais en répartition par une cotisation sociale qui est immédiatement transformée en pension. Et là encore, les résultats sont tout à fait évidents. Les pays qui financent la pension sans passer par les fonds de pension, sans passer par les formes diverses d'accumulation financière, de propriété lucrative, ont des résultats très supérieurs à ceux qui les financent par de l'accumulation financière. En termes de taux de remplacement, c'est-à-dire de rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, et en termes de pourcentage des retraités, des pensionnés, pardon, parmi la population de plus de 60 ans. Ce sont les pays qui financent sans épargne les pensions qui ont les meilleurs résultats. Et je note au passage, parce que David faisait allusion à mon travail sur les pensions et mon intervention pendant le mouvement de 2010, il y a eu une forme de misérabilisme dans le mouvement de 2010 autour de sauvons la répartition. La répartition n'a pas besoin d'être sauvée. Hein. C'est une institution florissante qui fonctionne, si on prend l'Europe des 15, sur les pays accédants, nouvellement accédants, il y a eu un passage de la Banque mondiale qui a créé des fonds de pension, mais pour le malheur de ces pays au demeurant. Mais si on prend l'Europe des 15, nous finançons les pensions à 90% en répartition. Et depuis 15 ans que les réformateurs s'efforcent de réduire ce pourcentage, ils n'y parviennent pas. La France est à 97%, mais on n'est jamais qu'un peu au-dessus de la moyenne, vous voyez. C'est la capitalisation, n'en faisons pas un adversaire surévalué. C'est un adversaire, bien sûr, puisque nous sommes dans la propriété lucrative et que je préconise sa suppression, mais ne surévaluons pas sa puissance. Au contraire, hein, c'est très important si nous voulons déboucher sur des propositions politiques. Il est extrêmement important de ne pas sous-estimer les tremplins dont nous disposons, d'avoir du réel une vision beaucoup plus dynamique que trop de nos discours défensifs. Il ne faut pas sauver la répartition, il n'y a pas besoin de l'être. Il faut, sur son modèle, l'étendre. Si nous situons en termes de sauvetage, nous sommes déjà sur la défensive et sur la défaite. C'est de l'offensive, au contraire, qu'il s'agit, et elle est possible au vu des résultats extrêmement performants de la cotisation comparée à la propriété lucrative. pourquoi faut-il passer cette fois-ci pour financer l'investissement lui-même de la propriété lucrative à la cotisation? C'est bien de ça qu'il s'agit. Si nous voulons une propriété d'usage des entreprises et des logements, il faut financer l'investissement sans propriété lucrative. Il faut que l'outil de production, l'immeuble, ne relève pas de la propriété lucrative et donc soit financé autrement que par l'accumulation financière. C'est possible puisque nous finançons déjà la santé et la vieillesse, le quart du PIB, sans aucune accumulation. Une cotisation vieillesse, c'est un engagement à très long terme. On cotise à 20 ans et on est encore retraité à 90 ans, sans des engagements sur 70 ans, que nous onérons sans aucune épargne. Pour honorer l'avenir des engagements de long terme, il ne faut surtout pas épargner. Qu'est-ce que c'est que épargner? Puisque c'est la légitimation de la propriété lucrative. On dit, il apporte quelque chose celui qui a épargné. C'est peut-être un salaud, mais c'est un salaud nécessaire. Alors c'est un salaud, on va le taxer, hein, taxons le capital. Mais taxer, c'est toujours légitimer ce qu'on taxe. Le problème n'est pas de taxer le capital, c'est pas d'une réforme fiscale dont nous avons besoin. Je le dis parce que je suis ici, mais qu'il y a des tentations de trouver le salut dans la réforme fiscale. C'est de nous approprier collectivement l'outil de travail en le finançant par cotisation. Supposons un repreneur. Il porte très bien son nom. Ce repreneur, vraiment, il prend, il reprend. Supposons un repreneur qui est imploré corde au cou par les élus locaux, les instances diverses et variées, pour venir au secours de l'entreprise en difficulté. Et qui, après s'être beaucoup fait prier, avoir fait toute une série de chantages, obtenu également du dumping fiscal, etc., etc., va apporter 2 millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Examinons ce qu'il apporte. Il n'apporte pas 2 millions d'euros dans des billets de valise. C'est des valises de billets. Sauf s'il recycle de l'argent sale, mais ça, il l'a déjà fait, de toute façon, à la AXA ou à la BNP, et donc c'est pas nécessaire. Il apporte des titres financiers. Et ces titres financiers, pour pouvoir les mobiliser dans la reprise de l'entreprise, pour pouvoir acheter des machines, acheter des matières premières, payer des salaires, il faut qu'il convertisse ses titres en monnaie. On ne peut pas payer avec des titres, surtout si c'est des titres au second degré. Il faut bien qu'il convertisse en monnaie ses titres. De deux choses l'une, soit il en tire un intérêt et un dividende, ce titre donc lui rapporte de la monnaie, soit il les vend. Il les porte à la banque qui va les convertir en monnaie. Dans les deux cas, il ponctionne sur le travail en train de se faire. Soit ce sont des intérêts, des dividendes, et là c'est tout à fait évident, c'est bien le travail des salariés d'entreprise dans lequel il a des actions, le travail des fonctionnaires pour les administrations auxquelles il a prêté de l'argent. C'est ce travail-là qui fonde son intérêt et son dividende. Ce qu'il apporte, il vient de nous le piquer. Deuxième solution, la banque convertit en monnaie les titres qu'il vient de lui apporter. Eh bien, la monnaie qu'utilise la banque pour convertir ses titres, c'est la monnaie en cours, qui exprime le travail en cours. S'il n'y a pas de travail en face des titres, produisant de la valeur, les titres ne valent rien. On s'en a aperçu en 2007. Vous avez une exubérance financière, comme dit l'autre, et de la monnaie virtuelle qui se crée dans l'espace de la bulle. Mais dans monnaie virtuelle, il n'y a que virtuelle qui a un sens. C'est pas de la monnaie. On s'en aperçoit lorsque la bulle se dégonfle. Les titres ne valent rien. Sauf que les actionnaires disposent du pouvoir politique et obtiennent une création monétaire de la Banque centrale à des niveaux indécents pour convertir en bonne monnaie la monnaie fictive créée dans l'espace de la bulle. Et pour que cette création monétaire par la Banque centrale ne soit pas de la planche à billets, parce qu'après tout ça pourrait être aussi de la mauvaise monnaie, eh bien il faut que nous gagions pendant 10 ans d'austérité cette monnaie qui a été créée à l'appel pour sauver les actionnaires par notre travail. Il n'y a en face de la monnaie que par quoi se convertit un titre, il n'y a que le travail en cours. Nous le savons depuis Adam Smith, c'est pas récent. Contre les mercantilistes, il écrit un bouquin qui s'appelle « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations » et la première ligne de cet ouvrage donne la réponse « Le travail annuel de la nation ». Voilà la nature et les causes de la richesse. On ne peut pas mettre de valeur au congélateur dans des portefeuilles de titres. Les portefeuilles de titres, ce n'est pas de la valeur. Les portefeuilles de titres, c'est un droit sur la valeur en train d'être créé au moment où on convertit ces titres en monnaie. Je le répète, les portefeuilles de titres, c'est un droit sur la valeur en train d'être créé au moment où on convertit les titres en monnaie. C'est un droit de propriété lucrative qui autorise ses détenteurs à ponctionner une partie du travail en cours. Le repreneur n'apporte rien qu'il ne nous ait piqué. Absolument rien. C'est un parasite absolu. D'une manière générale, d'ailleurs, je vais prendre cette fois-ci l'épargne d'usage. Là, je viens de parler de l'épargne lucrative. Si vous accumulez une épargne d'usage sur un livret d'épargne à 1, 2, 3% en vue de l'achat d'une voiture ou d'une maison, lorsque vous allez liquider cette épargne, c'est-à-dire convertir cette épargne en monnaie, vous n'apporterez rien à l'économie. cette année-là. Vous ponctionnerez sur la monnaie en cours, c'est-à-dire sur le travail en cours. Liquider de l'épargne n'apporte jamais rien. En revanche, au cours des années précédentes, pendant que vous déposiez, ces dépôts étaient convertis en investissements, en prêts, qui, eux, ont contribué à l'activité économique. Mais au moment où vous liquidez votre épargne, vous n'ajoutez rien à la valeur produite par le travail courant. Si je prends maintenant donc un épargnant lucratif, non pas celui qui se contente des 1, 2, 3% de l'épargne sur livret pour acheter des propriétés d'usage, hein, mais celui qui cherche un revenu, alors que dans l'épargne d'usage, on cherche simplement le maintien du pouvoir d'achat de dépôt. Celui qui cherche un revenu dans son épargne et qui donc va pratiquer des taux très au-delà des 1, 2 ou 3% de l'épargne d'usage, qu'est-ce qu'il apporte chaque année? Parce qu'on pourrait dire, bah oui, d'accord, il n'apporte rien quand il liquide son épargne, mais il a apporté avant. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Vous pouvez, vous, par votre travail, apporter 2 millions d'euros? Tous ces dépôts qu'il a fait au cours des années précédentes et qui lui ont permis de constituer son portefeuille, ces dépôts ou ces achats d'actions, c'était déjà de la prédation du travail d'autrui. Personne ne peut se constituer un patrimoine de 2 millions par son travail. Personne. Nous sommes toujours dans la prédation. Donc, au moment où il liquide son épargne, ce repreneur n'apporte rien, et quand il a constitué son épargne, il l'avait piqué. Il y a un moment où il faut dire que le roi est nu. Surtout quand, comme aujourd'hui, l'impasse dans laquelle nous met la propriété lucrative est tellement évidente. Comment donc nous allons prolonger le succès de la cotisation sociale pour en finir avec la propriété lucrative? Eh bien, nous allons financer l'investissement, non pas par le prêt dont je viens de dire ce qu'il est, une activité exclusivement parasitaire, qui en plus nous ôte toute maîtrise sur l'outil de travail, sa localisation, sa finalité, le nombre de postes de travail créés, les titulaires, tout cela est abandonné aux propriétaires lucratifs. Nous allons remplacer cette activité parasitaire qui en plus nous ôte toute capacité de décision sur la production, en créant une cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Actuellement, nous avons 20% du PIB seulement qui est investi sur les 35% du PIB qui va à la propriété lucrative. Les chiffres sont connus, nous sommes à peu près dans la valeur ajoutée à 60% pour le salaire, 40% pour les bénéfices et profits, hein, 60-40. Mais dans les bénéfices et profits, il y a des bénéfices justement qui sont les revenus des travailleurs indépendants, tout à fait légitimes, puisque là il s'agit de revenus du travail, de personnes qui sont indépendantes, c'est-à-dire qui ont une propriété d'usage de l'outil de travail. 100 milliards à peu près, donc sur les 2000 milliards que nous produisons, 1200 vont au salaire et 800 vont aux bénéfices et aux profits, dont 700 aux profits. Eh bien, sur les 700 qui vont au profit, vous allez avoir un peu d'impôt. Il y a quelques dizaines de milliards d'impôts en matière d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur les transactions de patrimoine, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Sur ces 700, sur ces 650 milliards donc qui restent, vous n'en avez que 400 qui sont investis. Et dans les conditions que j'ai dites, c'est-à-dire là où les prêteurs le veulent, s'ils le veulent, aux conditions qu'ils décident, en nous dépouillant de toute maîtrise de la production et en nous empêchant toute propriété d'usage. C'est pour cela que ma réponse à la question, c'est étendons la propriété d'usage. Mon problème n'est pas de limiter la propriété, c'est de l'étendre massivement. Mais il y a une condition qui est de supprimer, et non pas de mettre une limite à la propriété lucrative. Vous n'avez donc sur ces 650 milliards que 400 milliards qui sont investis. Nous avons un sous-investissement chronique qui permet d'ailleurs à ces prédateurs de faire un chantage permanent. La rareté de l'investissement est un élément du chantage, bien sûr. Ils appuient leur pouvoir sur cette rareté qu'ils provoquent. Nous allons faire ce que nous avons fait en matière de santé et de vieillesse. Nous allons créer une cotisation autour non pas de 20% du PIB, mais par exemple de 15%, étant entendu que les entreprises conserveraient 15% de leur valeur ajoutée pour l'autofinancement. La totalité serait donc 30% pour le PIB. Les entreprises conservent 15% de leur valeur ajoutée pour l'autofinancement, c'est tout à fait normal, ce qui permet d'ailleurs aux propriétaires d'usage d'entreprise, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise, de définir ce qu'est l'investissement dans cette entreprise. Et puis, les 15% autres vont à des caisses d'investissement. On sait faire, nous avons des caisses de sécurité sociale. Et ces caisses d'investissement, gérées démocratiquement, il faudra bien sûr rétablir les élections à la sécurité sociale et établir les élections dans les caisses d'investissement, financeront sans taux d'intérêt et sans remboursement. Sans remboursement. Puisque le remboursement et le taux d'intérêt n'existent que parce qu'il y a appropriation privée de la valeur, au-delà de son appropriation d'usage. Qu'il y ait une appropriation privée de la valeur de propriété d'usage, ça c'est tout à fait nécessaire. C'est ce qui maintient l'espace privé tout à fait nécessaire dans les sociétés aussi complexes que les nôtres. Et aussi tentées par des excès étatiques. Mais, en revanche, la propriété lucrative est une activité parasitaire totalement illégitime que nous pouvons supprimer à condition de bien voir les effets extrêmement positifs de la cotisation sociale. Or, c'est peut-être là que le bât blesse. C'est que depuis 15 ans, nous avons abandonné la bagarre sur la cotisation. Vous chercheriez en vain un parti politique ou un syndicat qui propose d'augmenter de 15 points les cotisations sociales. Or, c'est ce qu'il faudrait pour que nous retrouvions le mouvement de la cotisation entre 45 et 95. La cotisation sociale est passée de 32% du salaire brut en 45 à 66% dans les années 90. Pour un salaire de 2000 euros net, vous avez à peu près 1600 euros de cotisation sociale, 500 de cotisation salariée, ce qui fait que nous avons un brut de 2500 euros, d'accord, et puis 1100 de cotisation patronale, c'est à peu près le double de la cotisation salariée, un peu plus du double. En gros, 23%, enfin, ou le double, 23% du salaire brut pour la cotisation salariée et 43-44% pour la cotisation patronale. Cette pratique extrêmement intéressante de la socialisation du salaire, nous l'avons abandonnée depuis 15 ans. Il n'y a plus de hausse du taux de cotisation. Nous avons inventé un impôt, la CSG, pour se substituer à la cotisation sociale. Je vais finir puisque je suis au bout de mes 40 minutes, donc je vais achever. Mais j'espère que le débat permettra de confronter la cotisation sociale et l'impôt. Pas la cotisation sociale et la TVA sociale, ça c'est facile. La TVA sociale, c'est un impôt en charge distributif. C'est très facile de le contrer. La question, c'est en quoi la CSG est une régression considérable par rapport à la cotisation sociale. Ça, c'est un point que j'ouvre. Nous allons donc étendre la propriété d'usage en supprimant la propriété lucrative, y compris dans son usage populaire. Et je conclue là-dessus. Parce qu'un des effets les plus pervers de la réforme, j'ai pas le temps de parler de la réforme. La réforme, c'est tout, c'est toutes les régressions sociales que nous connaissons depuis 20 ans. C'est fait par des réformateurs, d'accord, qui réforment. La réforme, tout le monde a compris maintenant que c'est changé pour pire. C'est échangé pour mieux dans le vocabulaire habituel depuis le 15e siècle d'ailleurs, j'ai regardé dans le dictionnaire. Maintenant, chacun a compris que c'est changé pour pire. Et on fuit les réformateurs parce qu'on est sûr qu'ils vont nous casser quelque chose sur la tête. C'est très bien, parce que ça, la disqualification de la réforme, c'est ce qui permet de poser les choses d'une manière plus radicale. Et donc, je ne sauverai pas le mot réforme. En parlant de contre-réforme, sauf comme ça. Non, c'est la réforme, mais voilà, cette réforme, elle nous montre où elle nous mène, et il faut arrêter de réformer, il faut en finir de manière beaucoup plus radicale avec des institutions mortifères comme la propriété lucrative. Et un des effets pervers de la réforme, c'est que en n'augmentant plus le taux de cotisation, c'est-à-dire en n'augmentant plus le salaire à travers la cotisation sociale, en n'augmentant plus les salaires directs non plus, puisque pour une hausse du PIB qui est d'à peu près 1,5% en moyenne au cours des 30 dernières années, depuis les années 80, nous avons une hausse des salaires qui est de 0,5%, salaire direct et cotisation sociale. Donc nous ne récupérons que le tiers de la croissance du PIB depuis 30 ans. Imaginez les effets extrêmement pervers que ça a sur les ressources, évidemment sur le profit qui augmente et qui va spéculer, ça c'est clair, mais sur les ressources, et du coup, y compris des personnes sans grandes ressources vont pratiquer la propriété lucrative pour tenter de s'en tirer, louer à prix d'or des chambres de bonne, etc., etc. Cet usage populaire de la propriété lucrative doit être combattu au même titre que son usage massif par les portefeuilles financiers. L'usage populaire, c'est les supplétifs, c'est les harkis de la finance, mais qui crée un espace politique favorable à la finance. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se battre fermement contre l'usage populaire de la propriété lucrative en matière immobilière, en disant que c'est du côté du salaire qu'il faut chercher ses ressources, et non pas du côté de la propriété. La hausse massive des salaires, la garantie du salaire à vie, enfin toute chose que j'expose dans l'enjeu du salaire, voilà ce qui permettra de fonder positivement la suppression de la propriété lucrative, y compris dans son usage populaire. Vous connaissez peut-être la statistique, là encore, assez terrible, sur la structure des ressources des ménages. C'est une statistique que nous faisons dans la cantonade depuis 1949, donc on a une longue série. Et en gros, entre 49 et 75, le rapport entre les revenus de la propriété et les revenus du travail est un rapport de 1 à 4. Les revenus de la propriété représentent dans les revenus des ménages le quart des revenus du travail. Donc sur 100 de ressources des ménages, entre 49 et 75, vous avez 20 de revenus de la propriété et 80 de revenus du travail. Aujourd'hui, les revenus de la propriété représentent la moitié des revenus du travail. Dans les ressources des ménages, les revenus de la propriété, c'est 33%, les revenus du travail, c'est 66%. Cet usage populaire de la propriété lucrative est extrêmement pernicieux. Et nous ne pourrons le combattre, et il faut le combattre, puisqu'encore une fois, il légitime auprès d'une grande masse de gens l'usage de la propriété lucrative par les groupes financiers. Nous ne pourrons le combattre que si nous avons un discours positif sur le salaire à vie comme droit fondamental, un salaire à la qualification, qui démarre à 1500 euros par mois net d'impôts, puisque dans ce que je propose, il n'y a plus d'impôts. Hein. Nous avons de la cotisation. Donc 1500 euros net au premier niveau de qualification, et au dernier niveau de qualification, 6000 euros net si on a un écart de 1 à 4. Et aucun salaire supérieur à 6000 euros net, qui correspond à peu près à 10 000 euros actuels, hein, si on compte la fiscalité. C'est l'écart de salaire qu'on a à la SNCF, par exemple. Il est de 1 à 4, mais en gros, dans la fonction publique, dans les conventions collectives qui fonctionnent, on a un écart de 1 à 4. Donc tout le monde à 18 ans a un salaire à vie, irrévocable, le premier niveau de qualification, à 1500 euros net, et on peut progresser en qualification jusqu'à sa mort, si on passe des épreuves, jusqu'à 6000 euros net. Et ça, c'est payé par une cotisation salaire. On étend au salaire direct les bénéfices du salaire socialisé. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye mon opération du cœur. Parce que si je suis dans une PME, je peux me brosser. Ça ne marche même plus à la SNCF, ça ne marche plus à General Motors, tout ça, ça ne marche plus. Mon employeur paye des cotisations à une caisse, et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées qui permet de garantir la santé. Heureusement, ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite. Il a disparu éventuellement. C'est pareil, il cotise. Et bien de la même façon, ce n'est plus l'employeur, il n'y aura plus d'employeur du coup. Vous vous rendez compte, la liberté, ça va aussi donner. Les entreprises cotisent à hauteur de 50% de la valeur ajoutée, à peu près si vous additionnez les salaires directs actuels, les pensions, l'indemnité du chômage, les indemnités journalières maladie invalidité, on obtient 50% du PIB. Eh bien, les cotisations sont à 50% de la valeur ajoutée. Les entreprises cotisent, elles ne payent plus de salariés, elles cotisent. Sauf qu'elles font déjà pour la moitié du salaire. J'ai donné les chiffres, hein. Et ils en ont l'expérience très positive, donc on va aller au bout. 100% du salaire payé par cotisation. Et puis, une cotisation de 30% pour la valeur ajoutée, de la valeur ajoutée pour l'impôt, pour l'investissement, étant entendu que 15% ne quitte pas l'entreprise, nous sommes en autofinancement. Et puis les 20% qui restent, eh bien c'est toutes les consommations gratuites dont il va falloir étendre, hein, au logement, au transport. C'est toutes les consommations gratuites qui ne sont pas financées uniquement en salaire et en investissement. Les consommations gratuites, le salaire, l'école, l'hôpital, tout ça, c'est le salaire qui finance les salaires, la cotisation salaire, c'est la cotisation investissement qui finance l'investissement, mais vous avez aussi des dépenses de fonctionnement courant, d'achat d'énergie, etc. Ça, ce sera les 20%. Nous supprimons l'impôt, nous ne cherchons pas dans la réforme fiscale le salut, nous affectons tout le PIB à la cotisation salaire, cotisation économique, cotisation sociale, et nous supprimons la propriété lucrative.
J'ai un programme, Julien Bayou.
Bonsoir, merci pour la pour l'invitation, merci Anthony Foussard pour l'invitation aussi. Je compte beaucoup sur votre indulgence, parce que c'est pas facile de parler après M. Frio. Et par ailleurs, je vais essayer de dégager les quelques axes de lecture qu'on a commencé à lister. Donc, ça a été dit, je suis conseiller régional Europe Écologie Les Verts, je fais la campagne d'Eva Joly. Et par ailleurs, je suis militant et cofondateur avec quelques autres copains d'un collectif qui s'appelle Jeudi Noir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été un peu amené à réfléchir sur la question de la propriété. Jeudi Noir, c'est sur la question du logement, la cherté du logement, le mal-logement. Et en fait, il y a un peu de propriété d'usage et un peu de lucratif dedans. C'est-à-dire que Jeudi Noir, ça fait évidemment référence au crack de Wall Street, qu'on appelait de nos voeux, puisqu'on dénonce une bulle immobilière partiellement entretenue, en tout cas qui s'alimente avec l'indifférence des pouvoirs publics, donc la hausse des loyers et des prix à l'achat dont on a parlé. Donc ça, c'est pour le côté lucratif. Mais le jeu de noir, c'est aussi la référence à la sortie du particulier à particulier. Quand vous cherchez un appart, le jeudi est la jamais noire. Ça serait plutôt l'usage, on va dire. Et donc, dans les deux cas, c'est-à-dire pour Jeudi Noir comme pour Europe Écologie, les grands axes, on va dire, je ne sais pas si on peut trouver propriété d'usage ou propriété lucrative dans le projet d'Europe Écologie là. En revanche, on trouvera clairement l'idée que l'usage est préférable à l'accumulation et que la mutualisation est préférable à l'individualisation. Avec Jeudi Noir, pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics, en gros pour servir un petit peu de bras armés aux vraies associations qui avaient à peu près les mêmes propositions mais qui ne pouvaient pas les mettre en avant comme nous, on s'est dit qu'un raccourci pratique c'était d'aller dénoncer les bâtiments vides, donc les bâtiments abandonnés, laissés à la négligence ou à la spéculation, donc c'est illégal que de les réquisitionner, l'État peut le faire mais ne le fait pas, et quand c'est les citoyens c'est illégal, mais c'est évidemment le raccourci le plus pratique. Même si on ne peut pas dire il y a 2 millions de logements vacants et il y a tant de personnes à la rue, c'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, c'est quand même très pratique pour insister sur le fait que les pouvoirs publics ne font pas le boulot. Et par ailleurs, on a trouvé des raccourcis, des histoires encore plus fabuleuses. Vous avez tous entendu parler du triple A, la fameuse notation des agences immobilières. Hein, c'est quand vous êtes un investisseur institutionnel, par exemple la Société Générale, vous avez une dette, vous émettez des titres. Et bien en fait, de la même manière que au XIXe siècle, les banques devaient avoir de la propriété immobilière pour en imposer auprès de leurs clients, pour montrer qu'ils étaient solides, aujourd'hui il faut avoir un patrimoine immobilier pour montrer qu'on est solide vis-à-vis des trois grandes agences de notation. Mais en plus, si vous voulez avoir la meilleure note, il faut qu'une partie de votre patrimoine immobilier soit liquide, c'est-à-dire que vous puissiez le vendre rapidement, et donc pour ça, il faut qu'il soit vide. Et donc, c'est le comble de la gestion financière, qui veut dire que pour avoir la meilleure note, pour être le mieux géré, il faut qu'une partie de votre parc immobilier soit vide, 5 à 5%, ça suffit. Alors évidemment, si chez vous, vous avez 5% vide, ça fait, chez moi, ça ferait un tiroir, ça ferait un quart de la salle de bain, mais si vous êtes AXA, eh bien, ça peut faire des dizaines de milliers de mètres carrés. Donc il y a quand même un lien entre évidemment la spéculation qui est entretenue par le modèle actuel de la gestion. Quand on rentre dans ces bâtiments, on a pour objectif d'interpeller l'opinion publique. Et donc ça passe par arriver à prouver qu'on est là depuis quelque temps, c'est-à-dire en faire notre domicile, ou le revendiquer comme notre domicile. C'est à l'officier de police judiciaire de décider ou pas, donc évidemment, lui, il n'a pas trop intérêt à dire que c'est chez vous. Si ça marche, on considère donc que c'est votre domicile. Et là, on arrive, enfin, c'est l'objectif de Jeudi Noir, on arrive à faire se percuter deux droits, le droit de la propriété et le droit au logement. un droit au logement qui est reconnu comme une notion à caractère constitutionnel. Alors, on ne va pas rentrer dans les arguties, mais en gros, il y a le droit au logement opposable qui n'est pas assez appliqué. Alors que par contre, le droit de la propriété, qui est le seul droit mentionné deux fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un droit absolu, y compris le droit de ne rien faire de sa propriété, y compris si le droit de ne rien faire de sa propriété alimente la pénurie et donc vos loyers, alors que vous n'êtes pas responsable du fait que madame néglige sa propriété. Donc, l'objectif de ces procès, de ce recours aux tribunaux, c'est d'arriver petit à petit à faire évoluer la loi. Voilà. Donc, quand on a des conclusions au tribunal, ça se termine assez généralement par l'expulsion, mais avec ou sans indemnité. Et là, en général, le juge est plus ou moins sévère selon que le propriétaire est plus ou moins négligent. C'est-à-dire que il y a des indemnités quand il s'agit d'un particulier, parce que là, c'est pas bien de rentrer chez quelqu'un, évidemment, ou même s'il n'y est pas depuis 40 ans. Et le juge est moins sévère quand il s'agit d'un investisseur institutionnel. Parce qu'on considère qu'il s'est passé de loyer pendant 3-4 ans, et donc le juge n'a pas lieu de forcer les habitants sans droit ni titre, à payer un loyer au propriétaire. Donc avec ces actions juridiques, avec ces mises en danger, hein, c'est les militants qui se mettent en risque, on arrive petit à petit à faire évoluer le droit, et c'est une autre association qui s'appelle Droit au Logement qui a réussi à faire reconnaître par le Conseil d'État que le droit à l'hébergement était une liberté publique, qui devait être garantie par l'État, et qu'en fait l'État n'appliquait pas la loi. Donc il y a à peu près tous les outils actuels dans la loi pour permettre l'hébergement de tous ceux qui en ont besoin. Il s'agit juste, évidemment avec beaucoup de guillemets, du fait que la loi n'est pas appliquée. Voilà. Il faudra encore un peu de réquisition et de ce type de procès pour avancer, évidemment. Plus globalement, avec Europe Écologie Les Verts, on considère que le logement est un bien commun. C'est-à-dire que votre responsabilité, madame, en négligeant votre propriété, a un impact direct sur madame, parce que ça peut augmenter ses loyers. J'inverserai la prochaine fois, comme ça, il n'y aura pas de souci. Et que toute la société se porte mieux quand il y a moins de mal logés. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'État de dire tous propriétaires. C'est une vaste fumisterie. On savait que c'était une arnaque, on a pu le constater. Mais toute la partie logement qui a été consacrée, les débats sur le logement dans la campagne de 2007, c'était affligeant, puisqu'avec un slogan, une promesse, le tout propriétaire, Sarkozy a réussi à escamoter tout un vrai débat, donc justement sur la question du logement. Est-ce qu'il faut être propriétaire ou locataire, ou faut-il juste avoir un toit, enfin pas juste avec des guillemets. Donc nous, on considère qu'il faut avoir un toit. Le fait d'être propriétaire ou locataire relève plutôt d'un choix individuel. Ce serait presque une sorte d'autoritarisme de dire que vous devriez être propriétaire, monsieur. Voilà. Vous le serez si vous le pouvez, si vous le voulez. Et le jeune couple qui s'installe et qui devient propriétaire sur 25 ans, donc en gros qui devient locataire de sa banque avant d'avoir un enfant, c'est pas un très bon calcul, parce qu'il faudra qu'il déménage, etc. Mais toute cette notion, ce choix binaire, il est favorisé par l'idée que quand on est locataire, on jette l'argent par les fenêtres, alors que quand on est propriétaire, on construit un capital, etc. C'est une vraie illusion. Moi, je me félicite du gros succès qu'il y a autour de la location des élibles, la location des autolibles, là, ou même la location du temps de parole. Aujourd'hui, vous achetez plus un téléphone, mais vous achetez vous louez le réseau. Il y a vraiment une fumisterie sur la question de la propriété. On parle de tous propriétaires. On dit que la pierre est un endroit rentable. Et en fait, on fait miroiter à l'essentiel des gens des faux rendements. Quand on dit tous propriétaires, ou quand on dit il y a actuellement maintenant il y a 60% de propriétaires, en fait on oublie de préciser que parmi ces propriétaires, ils sont pour l'essentiel propriétaires occupants. C'est-à-dire ils occupent l'appartement dont ils sont propriétaires. Ça, c'est la valeur d'usage, si je ne me trompe pas. Et donc, si on ajoute ces 90% de propriétaires au reste des locataires qui sont évidemment donc dans la valeur d'usage, qui sont locataires, donc, ça fait 90% de la population qui sont à peu près confrontés au même problème. La cherté des loyers ou la cherté à l'achat les concerne. S'ils vendent, si le propriétaire occupant vend, il réalisera peut-être une plus-value, mais il faudra qu'il achète et entre-temps, le logement sera plus cher. Donc, il est concerné également par l'inflation, alors que les mesures qui sont actuellement qui ont été prises par Sarkozy, par le gouvernement, par Benoît Apparu, sont des mesures qui facilitent l'inflation. Au lieu de lutter contre la cherté des loyers ou la cherté des prix, on a au contraire pris des mesures qui les accélèrent. Et donc ça, c'est rentable, mais pas pour les propriétaires. Il n'y a pas lieu d'opposer locataires et propriétaires. Il y a lieu, par contre, peut-être d'opposer les propriétaires de plus de 3 ou 5 appartements avec le reste de la population. Voilà. C'est un point important. Je compte beaucoup sur vos questions pour préciser tout ça, hein, évidemment. Je fais un lien sans transition avec le projet d'Europe Écologie Verte qui s'inspire de ce qu'on vit à la région Île-de-France. Donc la région Île-de-France, je ne vous fais pas de topo, la région avec le plus d'inégalités, avec le plus de mal logements, avec aussi le plus de bâtiments vides, que ce soit des logements, il y en a à peu près 10% à Paris, ou des bureaux, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Mais aussi la région où finalement l'État se désengage le plus. Donc si on prend le budget logement, c'est 6 milliards. Et sur ces 6 milliards, il n'y en a que 10% qui sont consacrés à construire. Voilà, les aides à la pierre, c'est 600 millions et ça baisse chaque année. Par contre, si on prend en compte tout ce que consacre l'État au logement, on atteint plutôt 30 milliards, donc c'est 5 fois plus que le budget, mais ça passe beaucoup par des défiscalisations, des aides à la personne, les aides personnalisées au logement, tout ce qui permet de soutenir la demande, mais on ne construit pas. Voilà. On reste sur cette pénurie de logement. Et nous, à la région, donc au conseil régional, on fait partie de la majorité de gauche, et c'est une écolo, Emmanuel Coste, qui est la vice-présidence logement. Donc on plaide et on a obtenu un accroissement des aides à la pierre. Donc de notre côté, on met 250 millions, mais en fait ça compense un peu à peine le désengagement de l'État. Je vais vous faire un dire des chiffres, je suis pas là pour vendre ma boutique, mais 250 millions d'euros d'aide à la pierre en Île-de-France, à comparer avec 600 millions d'euros de l'État au national. Donc en fait, sur l'Île-de-France, c'est complètement stupide, mais la région met autant ou plus que l'État. C'est l'État qui a complètement abandonné la construction de logements sociaux. Donc on se retrouve dans une situation complètement débile, où la vice-présidente logement, elle dit « je vais mettre tant d'argent », mais elle n'a pas le pouvoir de décider où construire. Elle ne peut mettre 5, 30, 15, 25, 30, 50 millions d'euros sur un projet de logements sociaux que si la mairie a décidé de le faire. Donc, partant de ce constat, dans le projet Europe Écologie Verte, on propose évidemment de construire, il manque 800 000 à 900 000 logements, et il manque des logements accessibles, mais on propose également de refondre toute l'empilement, en fait, de collectivités territoriales et l'enchevêtrement des compétences pour qu'il y ait une autorité organisatrice du logement. Ça pourrait être la région, ça pourrait être un ministère du Grand Paris s'il servait à quelque chose, qui puisse décider véritablement de construire là où il faut. Parce que si vous laissez aux mairies, le maire, c'est compliqué pour lui puisque ça lui modifie sa surface électorale, ça se trouve les gens qui vont venir ils vont pas voter pour lui, enfin vous voyez, c'est que des soucis. Et évidemment, les communes pauvres ne peuvent pas construire ou sinon se retrouvent avec... voilà. Donc le fait d'avoir une collectivité organisatrice permet de faire une péréquation, construire avec l'argent là où il y en a et construire là où il y en a besoin. Ça, c'est pour la régulation, avec évidemment le contrôle des loyers. Et puis après, deux petits points qui font peut-être écho, enfin deux points très importants, mais qui font écho, je pense, au débat sur la propriété. Il y a d'une part ce qu'on appelle la garantie contre les risques locatifs, donc c'est la mutualisation, en fait, de du risque des impayés. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous allez payer un loyer de 600 euros, et votre propriétaire, en fait, il s'est assuré contre votre impayé. Auprès d'une assurance, qui fait ça évidemment pas par philanthropie, ça lui coûte 2% de votre loyer, 2% évidemment qui se retrouve dans votre. En gros, c'est vous qui le payez. Et donc vous payez vous-même pour garantir au propriétaire que vous allez payer l'impayé. Et par ailleurs, si jamais il y a un impayé, ce qui arrive de plus en plus, puisque les loyers sont de plus en plus chers, donc voilà, du coup il y a de plus en plus d'impayés, c'est pas parce que les gens sont plus méchants ou retors ou quoi, mais c'est parce que les loyers sont de plus en plus chers, et que par ailleurs, il y a des accidents de vie professionnelle. Il y a une garantie contre les impayés qui coûte de plus en plus cher et qui fait augmenter les loyers, mais par ailleurs, effectivement, le petit propriétaire, vous madame, donc, cette fois-ci, qui se retrouve vis-à-vis d'un impayé, il est clairement dans la galère s'il a besoin de ce loyer pour assurer son train de vie, etc. Donc on a une situation qui n'est absolument pas optimale, mais qui fait juste augmenter les profits des assurances et qui accélère l'inflation et met de temps en temps les propriétaires dans la détresse. Donc l'idée, c'est de mutualiser tout ça. Ça serait comme un cinquième pilier, une couverture logement, enfin, un embryon de ça, où on mutualise. Et l'État, ou une caisse logement, assure les impayés, et puis pour qu'on facilite les médiations et qu'on puisse, vous, monsieur, qui n'arrivez plus à assurer votre logement, vous reloger ailleurs, et que madame ne soit pas pendant 18 mois sans ressources financières. Ça, c'est la garantie contre les risques locatifs. Ça existe actuellement, ça s'appelle le Locapass, mais comme c'est pas universel, vous avez vous le jeune chevelu qui venait en disant j'ai pas de ressources donc j'ai le Locapass, et vous le propriétaire qui lui dit je préfère prendre quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc nous on vise à le rendre universel et exclusif, car vous c'est véritablement le saut de dimension qui fait que l'employé ne se retrouvait plus seul vis-à-vis de l'employeur en démarche individuelle à individuelle. Et l'employeur à l'époque pouvait refuser d'embaucher monsieur parce qu'il était noir. Aujourd'hui, il peut, mais il n'a pas le droit. Et faire ce saut qualitatif, ce saut de structure sur la question du logement. Désindividualiser les rapports entre propriétaires et locataires. Et après, j'en termine. Le point important, c'est conférer une existence légale aux coopératives d'habitants. Et là, c'est peut-être un peu le pont, je pense, entre les différentes propriétés. Coopérative d'habitants, c'est quelque chose qui fonctionne depuis longtemps, qui existe depuis longtemps, qui cartonne aux Pays-Bas, en Suisse ou ailleurs, mais qui n'a pas de fondement légal en droit français. C'est assez compliqué à expliquer, c'est-à-dire qu'on va être propriétaire ensemble d'un appartement, d'un immeuble, et on va être chacun locataire, donc des autres, de notre appartement. Et ça fait le lien entre propriété collective et location. Et concrètement, ça permet une modération, parce que si vous êtes à la fois copropriétaire et locataire, c'est vous qui choisissez votre loyer pour que ce soit rentable, mais sans excès sur l'inflation, et il n'y a pas de rente, il n'y a pas de spéculation sur ce type de copropriété. Et aujourd'hui, ça n'existe pas légalement, et donc l'idée, c'est d'introduire ça en droit français et de développer l'expérimentation là-dessus. Voilà.
Bon, alors on va passer la parole à la salle, et je crois que c'est intéressant de voir qu'on est sur deux temporalités qui sont différentes. Je crois qu'on a le projet utopique, et forcément ça nous intéresse, ça nous interpelle, etc. Et puis des éléments de l'applicable plus concret. Donc il y a la question certainement de la transition entre ce qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui et un projet de société qui va se poser. Mais on va commencer par les questions de la salle. Il y a un micro, oui. On va faire passer. Qui peut faire passer le micro?
Ça marche? Ça marche.
fond, j'en vois toute une souris. Les mains se lèvent, là. C'est bon.
Bon, après, s'il est super.
Bonjour, merci. J'aurais juste deux remarques. Donc d'abord à monsieur, oui, à monsieur Friot. Si j'ai bien compris, dans le projet que vous proposez, on serait dans une distribution des richesses qui serait essentiellement finalement par le travail, alors que de notre côté, on se rend compte qu'on a quand même besoin de moins en moins de travail pour produire ces richesses. Mais en même temps, vous proposez de garantir le salaire à vie. Alors, quelque part, on est peut-être plus dans une notion de revenu d'existence que de revenu du travail. C'est voilà une remarque, d'interrogation. Et d'autre part, donc sur une temporalité plus actuelle, on a parlé beaucoup du logement. Et actuellement, sur le modèle du logement social, si vous ne pensez pas qu'on est plus près peut-être de la propriété d'usage que de la propriété lucrative, comment vous caractériserez le logement social aujourd'hui? Voilà, merci.
Merci. Alors j'ai vu une question. Là, ben, juste là, ça vient juste là. Ça. Ouais, c'est bon. Pas grave.
Oui, alors Thomas Petit. Déjà, je suis syndicaliste, donc je vais donner un espoir à M. Friot. Parce que au niveau de l'UNSA, quand il y a eu la réforme des retraites au niveau de la fonction publique, il y avait une des parties de la réforme, entre guillemets, parce que je suis d'accord avec l'idée du mauvais terme réforme, bref, qui était d'augmenter les cotisations retraite des fonctionnaires de 0,3 points par an pendant 5 ans, je crois. Et on ne s'y est pas opposé. On est le seul syndicat à ne pas s'y être opposé. Bien sûr, on mettait à côté la problématique du gel des salaires. C'est-à-dire que pour nous, s'il y a un mauvais partage de la croissance, forcément, on peut difficilement faire la mutualisation sans que ça pose des problèmes ensuite de pouvoir d'achat par ailleurs. Mais effectivement, on était d'accord sur l'idée de mutualiser et qu'il y a une répartition à faire. Donc voilà, c'est un espoir que je donne. Et j'étais très intéressé par rapport à, d'ailleurs ça rejoint la question qui a été posée, sur cette notion de mutualiser les ressources qui sont tirées du travail pour les distribuer sous une forme de répartition. Alors, il y aura des précisions à avoir, parce que ça répond à des questions de sortie du salariat dans le terme salaire dans une usine avec regroupement des salariés, etc., puisqu'on est de plus en plus répartis, c'est ce qu'on voit avec les auto-entrepreneurs, etc., c'est que de plus en plus on sort de l'entreprise pour travailler à l'extérieur parce qu'il y a les moyens de communication qui permettent de le faire. Donc il y a un nouveau modèle. Actuellement, le modèle qui est proposé par le patronat, c'est la précarité. Et nous, en tant que syndicat, on cherche à redonner du lien, et ça peut être une solution pour redonner du lien. Alors, par contre, il y a un problème là-dedans. Là, le système que vous proposez, a priori, qui est de mutualiser, alors justement, c'est la question qui vient d'être posée aussi, c'est qu'il y a les périodes sans travail, et donc c'est la question des périodes sans travail, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et enfin, voilà, donc il y a ce lien global à faire qui permettrait de trouver une solution à la précarité. Je pense que ça approche de cette idée. Mais alors le problème, et j'en viens à la question, c'est par rapport à la CSG. Pour moi, que ce soit une mutualisation par des caisses ou par l'État, ça reste une mutualisation et l'État reste ce qui mutualise sur la totalité des citoyens, tant qu'on n'a pas d'État mondial, si je puis dire, ça reste l'endroit où tous les citoyens peuvent avoir accès à quelque chose. Pour le moment, la mutualisation sur les cotisations sociales reste fermée aux salariés, justement, à ceux qui ont accès au travail. Donc les chômeurs n'ont pas accès à la santé, n'ont pas accès aux retraites, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction de la CSG? Vous appeliez une question sur le sujet, je vous la pose.
Alors, il y avait derrière... Ouais, bon après, Pierre. Après.
Oui, alors, moi j'ai une question à Bernard Friot. parce que ça m'a, la démonstration m'a semblé limpide, je dirais, pour ce qui serait le secteur qu'on appelle privé, sauf que dans ce que vous préconisez, peut-être que la frontière entre secteur privé et secteur public s'efface, puisque tout est foncièrement d'intérêt général. Et je me posais, alors je précise que je n'ai aucune formation en économie, je me posais la question de ces activités qui produisent une richesse évidente pour la société, mais dont je ne sais pas du tout comment on la mesure, puisque il ne s'agit pas de richesse matérielle, je pense à l'enseignement, mais je pense aussi au travail d'un certain nombre d'associations, par exemple. À tout ce qui produit une valeur dans la société, une richesse, mais qui n'est pas forcément quantifiable, et tous ces acteurs de l'économie qui sont qui relèvent aujourd'hui soit du service public, soit d'un secteur associatif, enfin qui est un secteur qu'on ne considère pas comme marchand. Et je me demandais comment cela s'insère dans ce que vous proposez. L'autre question, c'était à Julien Bayou, parce que il me semble que sur ces expériences coopératives, il y a même une loi qui interdit la location coopérative en France, la loi Chalandon, connue pour les sinistres chalandonnettes. Et par ailleurs, j'ai entendu parler alors de l'exemple cubain. Je n'y suis pas allée, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est habitant d'une maison, enfin on en a absolument la propriété d'usage, sans loyer me semble-t-il, ou avec un loyer symbolique, mais en revanche, vous n'allez pas la léguer à vos enfants, vous n'avez pas le droit de la vendre, c'est purement une propriété d'usage. Alors, avec quelques effets pervers, mais qui sont aussi dus à ce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à Cuba, donc une certaine... des propriétés s'abîment, et puis le fait aussi que malgré l'interdiction de vente, il y a du troc ou plus ou moins du marché noir. Mais en tout cas, un système qui fait que vous êtes propriétaire, vous avez l'usage, mais vous n'avez en aucune manière, théoriquement et dans la loi, la possibilité de le rendre lucratif.
Pierre. Bonsoir, merci pour ces brillantes interventions. En tant qu'utopien, moi j'étais quand même interpellé, en tant qu'utopien, on lutte contre les trois dogmes qui sont ceux de la croissance, de la consommation et de la valeur travail. Et j'ai pas tellement trouvé dans votre intervention, surtout dans la série, de critique. Au contraire, j'ai presque perçu une espèce d'intégration de ces dogmes surtout avec la notion de la valeur travail que vous mettez clairement en avant, et surtout cette fin du salariat, ça a été rendu la première question de Fabien, qui m'interpelle de cette société du tout salarié, qui est quand même très, très, enfin, qui m'interpelle de façon assez violente, dans la mesure où, et d'ailleurs qui rebondit aussi, si je rebondis sur une autre de proposition, qui est celle de ce développement du pouvoir d'achat, alors que nous on prend plutôt le pouvoir de mon achat, de savoir ne pas consommer justement dans quelle mesure on se situe dans cette société qui, au contraire, nous place dans cette centralité de la valeur travail, c'est ce que vous défendez apparemment, et dans cette capacité que nous avons également à mieux acheter éventuellement davantage, et également avoir une rémunération. J'étais un peu surpris de votre proposition d'avoir... de défendre un petit peu cet investissement particulier qui rapporterait de façon normale entre 1 et 2%. Donc je m'interroge aussi par rapport à ça. Donc moi il y a un mot qui manque vraiment dans la proposition, mais qui me paraît intéressant, mais qu'il faut qu'on, encore une fois, David l'a dit, qui va alimenter notre réflexion, c'est l'enfer de la gratuité, tout simplement. Donc on parle de propriété, ça veut dire être évoqué au niveau de la propriété d'usage et du logement. La gratuité, comment vous vous la placez, comment vous voyez qu'elle peut prendre une dimension plus importante dans votre proposition, parce que ce que dit Julien Bayou est vraiment une question, parce qu'il dit qu'il est pour le développement de la location, et qu'il nous cite un exemple de téléphone portable, qui pour moi est un transfert de propriété contrainte, hein, avoir une location obligatoire d'un téléphone, pour moi, c'est en étincelle une libération, c'est au contraire un asservissement du fait, en plus, quand on sait la contrainte qu'on a avec les forfaits qui sont imposés, je pense pas que le téléphone portable sous forme de location, ça, c'est une forme de libération. Donc là je voudrais que vous me précisiez un petit peu tout ça, je caricature un peu volontairement hein, pour que le débat soit riche, mais c'est vrai que je reste sur l'instant en tout cas, sur la dimension paré-religionnelle, en tout cas de transition radicale que pourrait apporter votre proposition de ce monde du tout salarié et du développement d'une sphère hétéronome en tout cas qui nous dominerait tous et dans lequel la monnaie prendra toute notre place mais aurait encore une place très très importante alors qu'on est aussi pour un développement notamment des monnaies locales des échanges qui se placent en dehors du monde du travail.
Merci, je propose qu'on passe une dernière question, ensuite on fait une première série de réponses et on revient, j'ai bien vu qu'il y avait des questions là, donc dernière question avant le deuxième jeu.
Oui, moi aussi, oui. Ah non, je suis levé, d'accord. Bonjour. Donc oui, moi je voulais à la fois réagir et puis poser une question, surtout à Julien Lalou. Par rapport en fait à la question de la propriété lucrative et cette idée d'être tous propriétaires, je pense qu'il faut aussi dire qu'à un moment donné, c'est une question d'hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment à être étonné dans le sens où le capitalisme fonctionne comme ça et qu'au bout du bout, on arrive là. Donc je pense qu'il faut reposer la question à partir de là. Et je suis ici à ce sujet. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi qu'une grande majorité de la population pense qu'un autre modèle de société est possible. Je pense que c'est ça aussi qui m'a réuni, c'est rester utopique. Et pour croire pour que ça soit possible, moi il me semble qu'il y a certains scandales qu'il faudra vraiment arrêter en priorité. Et par exemple, je sais que dans le programme du Front de Gauche, il y a le fait que si on arrive au pouvoir, on proposera la réquisition de tous les logements vides. Et moi je pense que c'est bien parce que. Il faut aussi qu'on soit dans une société plus humaine pour que les gens puissent se dire qu'un autre modèle de société est possible. Et donc, je lui ai demandé à Julien Bailly si ça figurait dans le programme d'Europe Écologie des Verts et si ce n'est pas le cas, s'il l'a souhaité. Voilà, merci.
Merci. Je vais passer la parole à Bernard Rio, mais peut-être rajouter une petite question. J'ai le privilège de ça. Je vais tendre le micro. Donc, en fait, deux petites questions. La première, c'est la question de la transition vers le projet, la proposition qui est faite, qui est carrément un projet de société. Quels sont les rapports de force qui peuvent permettre de le mettre en place et avec quelles étapes on pourrait. Quelles sont les étapes intermédiaires, en gros, pour y arriver ? Parce que là, c'est quand même une question assez fondamentale. Et la deuxième question, elle est un peu liée à toute la réflexion qu'on a déjà nous menée à Utopia sur la question de la propriété. Parce qu'on n'a pas jusque-là, en tout cas, envisagé de manière extrêmement forte la propriété sous l'angle de la redistribution et de la cotisation, comme c'est fait dans ce que vous dites, mais plutôt sous l'angle de la démocratie, en s'inspirant pas mal d'ailleurs des travaux de Thomas Coutreau là-dessus. Et donc, ce qu'on se disait, c'est qu'au fond, c'est pas tout à fait la même chose la propriété d'une boulangerie ou d'une toute petite entreprise et Bouygues, Dassault, etc. qui sont des énormes propriétés, des propriétés concentrées, massives entre quelques mains et qui représentent aussi un pouvoir politique fort. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une priorité dans les attaques qu'on peut porter à la propriété. Et au fond, est-ce que l'objectif ce serait pas de séparer la propriété d'un capital productif du droit de vote qui est associé aujourd'hui à la détention de ce capital productif. Est-ce qu'il ne faut pas penser la séparation de ces propriétés pour faire intervenir dans le fonctionnement des entreprises des parties prenantes, pas uniquement les salariés d'ailleurs, mais ça peut être d'autres parties prenantes qui interviennent dans la société et qui, notamment dans les entreprises à fort impact social ou environnemental, nécessitent d'intégrer
d'intégrer des associations écologistes, des voilà, tout un tas d'autres choses. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser la question des limites à la propriété à travers l'angle démocratique? J'ai bien compris que les caisses de cotisation économique pourraient avoir des élus pour les diriger, mais on peut peut-être aller plus loin, mais...
Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Je les prends dans l'ordre. Revenu d'existence. Le revenu d'existence est salaire universel, tel que je viens d'en parler. Un salaire universel, puisque c'est le salaire pour tous et pour tout. Puisqu'il finance l'investissement et pas simplement les consommations des familles. Il y a une intersection qui est l'inconditionnalité. Il s'agit de poser un droit de qualification universelle qui est attribué automatiquement à tous au moment de la majorité, alors 16 ans, 18 ans, ça, qu'importe, et qui est irréversible et qui ne fait pas non plus l'objet d'une évaluation, tout comme le droit de vote, on ne va pas évaluer la façon dont les gens votent, c'est un droit inconditionnel. Ça, c'est ce qu'il y a de commun entre leur revenu d'existence et le salaire universel. Ensuite, je dirais que tout les sépare. Leur revenu d'existence, c'est un premier fait, qu'on appelle un deuxième, si on n'est pas satisfait des 1000 euros de revenu d'existence. Alors il faudra aller chercher sur le marché du travail un deuxième chèque. Donc, nous ne supprimons pas le marché du travail. Ne supprimons pas le marché du travail, nous ne supprimons pas la propriété lucrative non plus. Le salaire universel, c'est quelque chose qui n'appelle aucun second chèque. Il assure toute la ressource. Ce n'est pas la part du feu, hein, parce que c'est le risque qu'il y a dans le revenu d'existence. Une classe dirigeante qui est aujourd'hui incapable d'assumer la production de valeur d'usage a relativement intérêt, finalement, à ce qu'il y ait une connotation négative du travail. Bon, le travail, c'est de la merde. Et j'imagine très bien une classe dirigeante aux abois, qui ne peut plus être classe dirigeante, qui ne peut plus assumer la production de valeur d'usage, et qui va filer 1000 euros pour que les gens ferment leur gueule. Tout en conservant la valeur travail, je vais y venir, bref, le marché du travail, la propriété lucrative, etc. Le revenu d'existence ne nous libère de rien de ce qui est essentiel dans le capitalisme. La hausse des cotisations retraite des fonctionnaires, hélas, de quoi s'est-il s'agi en 2010, les fonctionnaires d'État, il n'y a pas de caisse et il n'y a pas de cotisation. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires d'État sont payés pour leur grade. Et étant payés pour leur grade, ils le sont à vie. Lorsque leur service est terminé, ils ont toujours un grade. Et cette qualification personnelle qu'ils ont acquise par une épreuve professionnelle qui les a qualifiés eux, étant à vie, ils continuent à être payés. sans qu'il y ait besoin de manifester dans une cotisation une quelconque prévoyance dans un revenu différé. En 2010, à la demande de la CFDT, a été créée une caisse des retraites des fonctionnaires d'État qui anticipe les mutations qui vont venir à la demande de la CFDT, c'est-à-dire calculer la pension sur toute la carrière et non pas sur le dernier salaire. C'est-à-dire détruire la fonction publique. Ce qui fonde la fonction publique, c'est la qualification de la personne. Il n'y a pas de chômeur chez les fonctionnaires parce qu'il n'y a pas d'emploi. Distinguons bien le grade et l'emploi. L'emploi, c'est le fait que la qualification est affectée au poste de travail. Dans le privé, on qualifie des postes. Les conventions collectives, elles qualifient des postes de travail. Jamais une personne n'est qualifiée dans le privé. C'est son poste qui est qualifié. Entendons-nous bien sur le mot qualification. La qualification, ce n'est pas la certification. La certification, c'est le fait d'avoir un diplôme. Le diplôme, c'est la reconnaissance de notre capacité à produire des valeurs d'usage. Et il vaut mieux, je ne sais pas quoi moi, s'adresser à un chirurgien diplômé qu'à un boucher pour une opération chirurgicale et vice-versa pour obtenir de la viande. Bon. La production de valeur d'usage, elle est assumée par le diplôme. Tout autre chose est la qualification. La qualification, c'est la reconnaissance de la capacité à produire de la valeur économique et donc à générer un salaire. Dans le travail, il y a deux dimensions. Il y a le travail concret, production de valeur d'usage, et puis la production de valeur économique, le travail abstrait. Et la qualification renvoie à cette seconde dimension du travail. Et dans le capitalisme, c'est une des clés de notre impuissance vis-à-vis du travail concret. Dans le capitalisme, la qualification n'est jamais le fait du travailleur. Ce n'est pas le travailleur qui est posé comme produisant de la valeur économique, c'est son poste. S'il n'a pas de poste, il est à poil. C'est pour cela que l'emploi génère le chômage. Un fonctionnaire, ce n'est pas un employé à vie, comme on le dit souvent. Il n'y a pas d'emploi dans la fonction publique. Un fonctionnaire, c'est un salarié à vie, qui anticipe ce que pourrait être un salaire universel. Non pas tous travailler pour l'État, ça n'a strictement aucun sens. La propriété d'usage, ce n'est pas une propriété étatique. La propriété d'usage, mais elle démarre dès la boulangerie, en revanche. Dès lors qu'on est deux, il faut une propriété collective. Sinon, le deuxième, il est exploité par le premier. La propriété d'usage devient une propriété lucrative si on n'est plus que deux, plus que deux, et avec un deuxième qui utilise le matériel appartenant à l'autre, d'accord ? Et il faut bien que ce matériel appartienne aux deux, sinon il y aura forcément de l'exploitation. Donc, la propriété, la propriété lucrative repose sur le fait que les salariés du privé sont niés comme porteurs de qualifications. Donc, le but de la réforme en matière de pension, c'est d'en finir avec la fonction publique en supprimant la pension comme continuation du salaire à vie. C'est tout à fait cohérent avec la RGPP, la LRU, la LOLF, enfin bref, tout ce qui fait que progressivement, c'est le poste de travail qui devient le support des droits des fonctionnaires. Alors que le support des droits des fonctionnaires, ce n'est pas le poste de travail, c'est eux-mêmes. Ceci est fondamentalement anticapitaliste. Et la fonction publique n'a pas du tout à se défendre en disant on a droit à des statuts spéciaux parce qu'on a fait des missions spéciales. C'est le défenseur corporatif qui prend les autres pour les cons, globalement. Hein. La fonction publique a préconisé l'extension à tous de la qualification de la